Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Esprit libre avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique.
Nous glosions à l'instant avec Michel Onfray sur ce que nous racontait David Abiker sur cette culture woke en entreprise. On va parler d'un autre sujet, l'écologie, qui est le thème central du dernier numéro de Front Populaire, votre revue Michel Onfray, consacrée aux écologies avec un S, les leurs et la nôtre. Alors, dans le texte d'introduction, on va commencer par là, c'est vous qui l'ouvrez, ce numéro de Front Populaire. Vous êtes parti aux sources de l'écologie moderne, vous êtes remonté jusqu'à elle, vous nous racontez que le mot est forgé en 1866, mais en réalité, il ne prend son acception moderne, son sens contemporain, que beaucoup plus tardivement. Le moment important, c'est 1956, c'est l'explication de l'écologie donnée par un philosophe allemand. Faut-il l'appeler philosophe d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, il s'appelle Hans Jonas. Et vous avez déconstruit, si je puis dire, ce que dit Hans Jonas. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi l'écologie vue par cet homme qui a une influence considérable, il faut le dire, sur l'écologie politique aujourd'hui?
Oui, bien sûr que c'est un philosophe, un grand philosophe, élève de Heidegger, bien que juif, parce qu'on sait que Heidegger a quand même été au parti nazi de 33 jusqu'à 45. Hein. C'est dans la mouvance de Günther Anders, d'Anna Arendt, c'est une pensée très intéressante. Je lui ai consacré d'ailleurs un long séminaire à l'époque où l'université populaire existait encore et n'avait pas été sabordée par Macron et les siens. Et c'est quelqu'un qui écrit Le principe responsabilité. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça répondait à des marxistes de l'époque, à un marxiste qui s'appelait Bloch, enfin, peu importe, mais je veux dire que le chancelier allemand répond à un journaliste qui lui dit, vous allez emmener quoi en vacances pour lire sur la plage? Il dit, Hans Jonas. Alors évidemment, les Allemands disent...
Helmut Schmidt, en 1980.
Voilà. Et donc, toute la presse en parle, et puis au Parlement, on commence à lire ce livre, qui n'est pas bien facile à comprendre, ça reste quand même du langage phénoménologique, c'est pas facile d'accès, et d'un seul coup, il devient le maître à penser des fameux Grünen, des Verts allemands. Et effectivement, c'est une façon d'être écologiste. Alors, il est juif, millénariste, c'est-à-dire lecteur des prophètes, et le schéma finalement chrétien, ce qu'on appelle la parousie, enfin judéo-chrétien, puisqu'il est juif, mais du genre, c'est l'apocalypse. Si nous ne faisons pas un certain nombre de choses, et notamment la repentance, va très loin. C'est-à-dire, un certain temps, par exemple, l'Union soviétique existe encore à cette époque-là, il pense qu'il faut un régime comme l'Union soviétique, extrêmement dictatorial, extrêmement sévère, et surtout il met en place ce qu'il appelle l'heuristique de la peur.
Alors justement, voilà, je vous cite parce que ça résume vraiment, les gens vont comprendre en réalité ce que vous voulez dire. L'éthique de Jonas repose sur des fondations théologiques. On se doute bien que la raison n'est pas son amie, ni même la philosophie des Lumières. Quel est l'idéal de Jonas? Une nouvelle ascèse, une heuristique de la peur. C'est-à-dire, on ne raisonne plus, on veut faire peur.
C'est ça. Voilà. L'heuristique consiste à dire, arrêtez de penser ou de réfléchir, vous risqueriez de tomber sur la vérité, c'est pas très intéressant, mais en revanche, je vais vous faire peur. Et donc, l'idée que tout va s'effondrer, que la planète va exploser, que dans deux générations, ce sera le Sahel en Normandie, que les moustiques tigres vont donner la dingue à tout le monde à Cherbourg dans 5 ou 6 ans. Enfin, toutes ces choses-là, Hans Jonas nous dit, dites-le, ça fera peur aux gens quand ils auront peur. À ce moment-là, ils se comporteront raisonnablement. Puis après, il dit, finalement, ils ne se comportent pas raisonnablement, il faudrait une espèce de dictature éclairée. Et il ne suffit pas de faire peur, il suffira de prendre le pouvoir en disant, eh ben maintenant c'est comme ça. Donc vous mettez, je sais pas, des Yves Cochet au pouvoir et vous dites, eh bien maintenant on arrête les avions, on arrête la voiture, on taxe très fort ceci ou cela, etc. C'est une espèce de dictature qui est proposée. C'est pas du tout quelque chose de raisonnable ou de rationnel. Si on réfléchit, on se dit, mais bien sûr que le réchauffement climatique est une évidence. Mais de là à dire, c'est l'homme qui est responsable, c'est l'homme qui est coupable, ça aussi c'est très judéo-chrétien. Oui, bien sûr, peut-être, avec les dégagements de CO2 qui sont les nôtres, simplement. Vous avez, on sait que la Terre vibre sur elle-même. Et que ces vibrations font que les pôles peuvent fondre, parce qu'effectivement, si vous vibrez, vous penchez vous orientez les pôles dans un sens ou dans un autre, et si vous les orientez un peu, 1 ou 2 degrés, ça suffit pour que l'exposition au soleil change et que vous ayez une fonte.
Mais justement, Michel Onfray, vous contestez le manque de rationalisme de la philosophie de Hans Jonas. Oui. Et le carburant idéologique que ça amène à des gens qui sont dans une mouvance, disons, effondriste, qui vont dire les catastrophes, c'est inévitable, vous l'avez dit. Mais quand même, c'est documenté. On sait aujourd'hui que le réchauffement s'accélère depuis 200 ans, depuis le début de la révolution industrielle. Tous les matins, Baptiste Gabory, notre journaliste maison, documente la catastrophe, le réchauffement, de manière sur des bases scientifiques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Vous êtes anti-écologiste ?
Non, pas du tout.
Ou c'est ce discours catastrophiste vous énerve à tel point que vous venez à dire, moi, finalement, pour sauver la planète, je ne fais plus rien.
Non, c'est pas ça. Je dis simplement qu'on ne peut pas considérer que la mesure du temps, c'est le journaliste qui la donne. C'est-à-dire, c'est l'instant. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de me dire 200 ans. Disant, mais 200 ans ? Oui, mais alors ? Moi, je vous parle de millénaires. Je vous parle de millénaires. Il faut reprendre la théorie de Brodel sur les longues durées en se disant, mais il y a eu des glaciations et des réchauffements de la planète. Et à l'époque où les hommes n'existaient pas. Je rappelle quand même que le roi Léduri écrit un livre qui s'appelle l'histoire du climat depuis l'an 1000, parce que les viticulteurs tenaient une rubrique très précise du temps qu'il faisait, tel jour, telle date, à telle heure, il y a du gel, il y a du froid, il fait telle température, etc., etc. Et on sait que pendant 1000 ans, il y a eu des variations de température qui étaient considérables.
Petit âge glaciaire.
Absolument, j'allais vous en parler. À l'époque de Louis XIV, on traverse la Seine parce qu'elle est gelée, on la traverse à pied. Et donc on dit quoi là, ce sont les mobilettes du XVIIe siècle et les voitures du XVIIIe siècle qui sont responsables du réchauffement climatique.
À l'époque, on n'a pas d'instrument de mesure des quantités de CO2 dans l'atmosphère aussi.
Si, on les a pas à l'époque, mais on les a aujourd'hui. Il suffit de faire du carottage. Et quand vous faites du carottage, le CO2, il est très précisément fixé. Vous savez ce qu'il en est. On sait faire ça très bien. Tous les glaciologues, tous les climatologues ont des possibilités de vous dire ça.
Oui.
En travaillant sur les dendrites, enfin sur les écorces des arbres, on est capable de savoir. Si vous faites un carottage dans un chêne qui a 500 ans, et vous êtes capable de savoir quelle température il faisait à telle époque. Donc, il y a effectivement une responsabilité de l'homme, ça paraît évident, mais il y a un moment donné, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas vivre avec la nature au sens élargi du terme ? Les écolos sont des bobos urbains, la plupart du temps. Moi, j'écoute mes copains paysans. Je salue mon copain Nico, qui doit être en train de m'écouter, qui est un berger qui a un bon sens extraordinaire et qui me donne des informations. Et je lui dis, mais ces informations-là, on ne les entend jamais. Écoutez les gens qui connaissent la nature, et pas les gens qui ont appris ce qu'était la nature à l'ENA, à Sciences Po, ou en faisant un DE1 de Sciences de la Terre.
Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, l'élément important, c'est que... Je comprends ce que vous dites, à savoir, il y a sans doute des éléments... on dit sauver la planète, mais en fait, c'est sauver l'humanité, l'enjeu. On a bien compris. Il y a un papier de prospective qui est assez terrible d'Antoine Bueno au début de la revue, qui nous dit, si on mesure les conséquences qu'aura le réchauffement climatique au rythme actuel, dans une perspective aussi d'augmentation de la population, on sera peut-être 8, 9, 10, 11 milliards à la fin du siècle. On ne le sait pas d'ailleurs. On voit que les projections commencent à être vraiment mouvantes. Il y a cette idée d'un effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Voilà ce qu'il dit. C'est surtout ça qui fait peur aujourd'hui aux gens.
Oui, il dit quelque chose d'important, Antoine, que personne ne dit, c'est qu'il faut penser en termes de démographie. De la même manière qu'il faut penser en termes de longue durée, il faut penser les choses en termes planétaires, et pas seulement local au local, je dirais. Quand il dit qu'un certain nombre de femmes voudraient ne pas avoir d'enfants et sont obligées tout de même de faire des enfants alors qu'elles ne veulent pas, on se dit, mais les écologistes, ils ne disent jamais que faire un enfant, c'est quand même augmenter la trace carbone.
Alors, vous n'êtes pas tous d'accord, j'ai noté dans la revue, parce que vous êtes plutôt dans la mouvance, on va dire, néo-malthusienne. Vous dites une clé de la solution écologique, c'est précisément de faire... d'avoir moins d'enfants, que nous soyons moins nombreux sur Terre, ce qui aurait d'ailleurs des conséquences économiques gigantesques. Ça. Vieillissement de la société, difficulté pour les plus jeunes à assumer le poids des retraites pour les plus aisés, enfin pour les plus âgés, etc., etc.
Oui, vous avez raison, c'est une révolution. C'est vraiment une révolution. C'est-à-dire que moi, je ne souscris pas à ces gens qui nous disent, à l'argumentaire des gens qui nous disent que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Je ne comprends pas pourquoi certains travaillent beaucoup plus longtemps pendant que d'autres ne travaillent pas. On a vu que ce garçon qui a giflé le président de la République a travaillé 2 ans dans les 8 dernières années. Qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle un jeune, qui doit avoir 28 ans, je crois, depuis l'âge de 20 ans, il a travaillé 2 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que d'autres travaillent, des caissières qui travaillent pour des salaires de misère, qui travaillent 35 heures ou 37 ou 38 heures par semaine.
Et détecter haut potentiel intellectuel pendant sa scolarité d'ailleurs, jeune Damien Tarrère.
Oui, ça aussi c'est notre sujet. C'est-à-dire ce qu'on fait des intelligences et des talents en France. Il faut surtout pas être intelligent, il faut surtout pas être talentueux au nom de l'égalité, prétendument de l'égalité. S'il y a une tête qui dépasse vers le haut, on la coupe en France. On aurait pu peut-être faire de ce type un génie, on en fait un crétin. Donc formidable, c'est tout le système qui fait... pardonne d'utiliser ce mot-là à son endroit, mais je veux dire, si ce potentiel n'a pas été révélé ou réalisé, bah effectivement, il est dans une espèce de déchéance. Enfin, on peut pas imaginer qu'à 28 ans, vous n'ayez travaillé que 2 années, et encore, il a fait une formation de thanatopracteur, c'est-à-dire d'embaumement des cadavres, et qu'il a laissé tomber en route. On se dit, c'est une espèce d'échec aussi de notre société, cette gifle-là.
Donc, elle manque d'efficacité, cette société, mais pour revenir au défi...
Hélas non, elle a une efficacité négative. C'est très efficace, l'école, pour rendre les enfants abrutis. C'est très efficace, l'école, pour leur apprendre à ne plus lire, à ne plus écrire, à ne plus compter, à ne plus penser. C'est très efficace, l'école, pour apprendre qu'il faut plutôt que de savoir ce qu'était le règne de Louis XIV, qu'il faut trier ses ordures, ou que effectivement la transsexualité est une chose formidable. Non, c'est hélas très efficace pour inculquer l'idéologie du moment.
Mais si je reviens à notre... Je vois les liens que vous tissez avec notre sujet de l'écologie. Il y a un papier de Luc Ferry aussi qui cartographie les 7 familles de l'écologie. Et quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, la tension, elle est entre 2 extrêmes. Ceux qui disent, nous sommes condamnés soit à la catastrophe, ou bien acceptons l'idée d'une décroissance, et en partie démographique, hein, ou bien il y a ceux qui en croient encore au progrès, et donc qui se classent plutôt dans le camp de ceux qui vont dire non, il faut de la croissance verte, ou des gens comme Luc Ferry qui nous parle d'éco-modernisme, il faut intensifier les activités humaines, mais prendre moins de place sur la Terre, aller vers davantage de circularité. Comment vous vous situez, à quel endroit entre ces 2 extrêmes, vous ?
Moi, sur ce sujet, je suis d'accord avec Luc Ferry, et d'ailleurs je suis très content qu'on se retrouve sur ce sujet. D'abord, je trouve que c'est l'un de ses meilleurs livres. Ça me paraît intéressant aussi de le signaler. Mais d'abord, je voudrais le remercier publiquement de faire partie de l'aventure, parce que quand même, et Bernard-Henri Lévy et quelques autres ont expliqué que c'était la revue des Rouges-Bruns, que nous étions les nazis, et que nous étions, je l'ai dit tout à l'heure, Marcel Déa, etc. Donc, c'est plutôt courageux de s'exposer en disant, mais pas du tout, c'est une revue de débat. Nous avons d'ailleurs débattu hier soir pour lancer ce numéro sur notre chaîne YouTube. Et il y a effectivement, chez Luc Ferry, une option écologique technophile qui est la mienne. Nous partageons ça. Alors lui, il va plus loin que moi. Il m'a d'ailleurs proposé de faire un débat sur ce sujet. Lui défend le transhumanisme, moi pas. Lui défend la viande cellulaire, enfin la viande artificielle, la viande de laboratoire, moi pas. On s'est promis de se retrouver pour en parler courtoisement et amicalement, mais je suis sur une position d'écologie technophile. La raison, Luc, de dire que quand on a les gens qui sont partisans de l'homéopathie, quand ils ont un cancer, ils souhaitent une thérapie immunitaire en pointe. Et de fait, il y a un moment donné où quand vous avez le choix entre la pensée magique et la science, quand il s'agit de sauver votre peau, la pensée magique, vous la laissez de côté et vous allez voir du côté de la science. Donc la science, la technique, c'est un instrument. Vous pouvez faire n'importe quoi avec un instrument. Avec un couteau, vous pouvez peler une pomme et puis vous pouvez tuer quelqu'un aussi. Bien, la technologie, c'est un instrument. La technique, pardon, c'est un instrument, et avec cet instrument, vous pouvez faire le meilleur et le pire. Vous pouvez détruire la planète. Évidemment, on est contre ça, nous, à Front Populaire. Et vous pouvez aussi dire, mais la destruction, elle est susceptible d'être réparer avec justement une technique adaptée. Et on peut faire plein de choses sur le terrain technique. Alors ça, ce serait l'occasion d'un autre numéro pour le coup.
Effectivement, je pense que vous avez raison. Vu effectivement,
oui, c'est voit. Dense.
Ben oui, et c'est le sujet vaccinal nous montre aussi à quel point aujourd'hui le progrès technique est difficilement compris, c'est vrai. Oui. Merci Michel Onfray d'être venu nous voir, Front Populaire. Votre numéro d'été consacré donc aux écologies, les leurs et la nôtre. On a parlé que 2-3 papiers, mais il y en a bien d'autres, notamment celui de Jacques Sapir que j'ai particulièrement apprécié, que je salue s'il nous écoute.
Il y a Brigitte Bardot aussi qui
Oui, c'est vrai, Brigitte Bardot. Vous avez raison. 8h58.